Justy sur France Inter.
Dominique Hutin, oui. Y a des moules, avec un peu de chance, elles viennent de Normandie.
Non. J'espère,
en
tout cas.
De la baie du Mont-Saint-Michel.
Mais c'est à côté
bravo,
de chez Dominique.
Bravo, bravo. C'est les moules Morisseau.
Bravo, bravo. Voilà. Ben voilà, cette chronique s'arrête là. On va rester sur un bon mot. Non, c'est parfait. Alors, et surtout le talent de la vapeur, parce que j'ai l'occasion d'en manger quand même relativement souvent, parce que c'est pas cher, il faut le dire. Le talent de la vapeur, c'est que là, vous croquez la mer. Vous êtes essayé déjà à croquer dedans. Et on a vraiment les embruns. C'est au naturel, on ne fait pas mieux. On ne fait pas mieux, on a l'impression d'être sur la plage et les récolter directement.
Donc vraiment, c'est phénoménal ces moules, hein. À la vapeur, 6 minutes.
Ouais. Oui,
incroyable.
Et d'ailleurs, jolies chairs, hein, ils sont assez charnus, c'est assez, c'est assez intéressant. Je crois que c'est le temps de ma chronique quand même, donc je vais me lancer maintenant si vous voulez. On va profiter justement de l'air chaud de la vapeur pour prendre un petit peu de hauteur, au-dessus de la mer, pourquoi pas. Je vais vous inviter à un voyage en ballon. Alors, en vert ballon, pour être un peu plus juste. On va aller cap à l'est, on va survoler le Jura et on va évoquer l'histoire d'un vin. D'un grand vin, d'un très grand vin même, qui s'évapore et qui, plutôt que devenir vinaigre, pardon, j'ai une moule dans la gorge, pardon, vous faites manger en même temps, c'est pas entièrement simple. Donc, plutôt que de devenir vinaigre, il a préféré prendre le voile. Alors, pourquoi le vinaigre? Parce que tous les vins du monde qui dorment dans un tonneau craignent l'évaporation qui se produit naturellement dans le fût à travers les pores du bois. Et puis, évidemment, comme la nature a horreur du vide, cette évaporation, elle est suivie d'un deuxième phénomène. Puisque le vin est en contact de l'air, il va connaître les charmes de ce qu'on appelle la piqûre acétique. Ne cherchez pas, c'est très simple. Sa traduction, c'est le vinaigre. Et pour tous les vins du monde, qu'est-ce que l'on fait? On comble le vide créé par l'évaporation en faisant le niveau avec le même vin dans ce tonneau, de manière à ce que le tonneau soit, lui, toujours plein. Ça, c'est ce qui se passe dans un monde cartésien. Les vignerons jurassiens, eux, ils ont une autre vision du monde et ils nourrissent une exception qui s'appelle le vin jaune. Et si vous n'avez jamais goûté le vin jaune, vous pouvez considérer que vous avez raté la première partie de votre vie. C'est autre chose. Alors, j'ai un peu volé le départ. J'ai versé dans vos verres des vins jaunes, de curiosité. Alors, qui peut-être peuvent vous désarçonner si c'est la première fois que vous avez affaire au vin jaune.
Ah, moi, j'adore.
Ah bah voilà. La sanction est immédiate. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement sec.
Fruits secs, noix, curry.
Des notes de curry, bravo. Ça peut être du caramel au lait, etc. Le premier, c'est Château Chalon de Marie-Pierre Chevassu façonné en 2012. Là, c'est la délicatesse incarnée.
Vous nous gâtez.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est tout en suggestion, une silhouette assez légère. Et puis après, un registre un petit peu plus terrien. Voilà, tactile. Ça coûte 31 euros, pardon. Et puis, on a aussi un Arbois, Domaine Forêt, lui aussi en 2012, avec des notes sauvages de gentiane. C'est un vin un peu plus punchy. Alors, vous pouvez vous servir autant que vous le voulez, parce que dans ma musette, j'ai 27 vins jaunes que vous pourrez retrouver sur mon carnet de vignes qui est en ligne, sur la page On va déguster, vous connaissez le principe maintenant. Et vous allez retrouver l'extraordinaire série des Stéphane Tissot. Ça, c'est fantastique. Tous ces vins, c'est un voyage. Les Berthet Bondé, les Renardières, les Tourez, etc. Et tout ça révèle les très grands vins de fête et ces vins du Jura qui forment une promesse fantastique de dépaysement gustatif, qui sont des vins un petit peu confidentiels qui portent en eux une espèce de frisson. Alors, à propos de révéler des sensations fortes, moi, je vais évoquer le mystère œnologique qui fait que le vin jaune échappe à cet acte d'essai estampillé vinaigre. Le vin jaune, on va rechercher volontairement l'évaporation. Certains poussent même le vis, jusqu'à loger les tonneaux dans des greniers, c'est-à-dire la partie chaude, et ce pendant 6 ans et 3 mois. À la surface du vin va se former un voile, c'est une levure particulière qui va occuper le terrain, développer cette fine pellicule. Voilà, le voile se forme en surface, et c'est donc un voile protecteur contre l'oxydation. D'où le nom de vin jaune égale vin de voile. Oxydation, évaporation volontaire, vous ajoutez le cépage exclusif qu'est le savagnin et vous avez là le marqueur identitaire de ce qu'est le Jura. Alors ces vins qui sont élevés à la dure, ils sont increvables. La bouteille entamée, vous pouvez la garder plusieurs semaines si on arrive à garder celle-ci entière avant la fin de l'émission, par exemple. Mais vous les laissez ouverts plusieurs semaines, aucun problème. Et pour remettre un petit peu les choses en perspective en matière de longévité, je vous rappelle qu'on est au 21e siècle et il m'a été donné de goûter des vins du milieu du 19e siècle. Donc c'est quand même...
On peut appeler ça des vins de garde.
Ce sont des vins de garde, ouais, ça illustre la capacité à résister aux morsures du temps. En termes d'accord, plein de pistes. Par exemple, la brochette au curry de Stéphane de tout à l'heure.
Eh ben oui.
C'était un délit d'initié. Comment est-ce que vous avez deviné? C'était typiquement ce qu'il fallait avec ces choses-là. Plus classiquement, vous allez compter les poulards de vin jaune. La Saint-Jacques, la saison vient de commencer. Je vois Elvira qui opine du chef, vient de commencer le 1er octobre. Enfin voilà, tout ça fonctionne très très bien. Et puis pour finir, pour conclure, en matière d'accords et mets et vins, aujourd'hui c'est la Saint-François, François. Vous saviez François que c'était la Saint-François ?
Oui, mais je ne m'appelle pas François.
Ah, flûte. Bon, alors on recommence depuis le début. François Régis, donc.
Tout le monde me fête ma fête à la Saint-François, mais en fait la Saint-François Régis, c'est le 16 juin, j'y peux rien.
Ah, elle existe donc, c'est dingue. Donc on pistera la Sainte-Elvira une prochaine fois,
c'est pas grave. C'est pas gagné ça.
Le hasard veut que ce soit quand même la Saint-François. Et donc j'ai trouvé ce qui doit être la plus vieille trace d'accord mets et vins autour du vin jaune, c'est Saint-François d'Assise, que l'on fête aujourd'hui. Non. Oui, 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 son père était négociant en étoffe, en drap, et donc en voile. Et voilà ce qu'il nous dit. Voici venu le vin à voile et à vapeur, avale-moi ça avec l'hostie et un pot de beurre. Voilà, c'est Saint-François d'Assise, et c'était un scoop France Inter.
C'est honteux.
C'était cadeau.
C'est honteux, faites le taire. Merci beaucoup Dominique, dont on retrouve quand même l'incroyable travail dans un cahier de dégustation comportant combien de cuvées de vin jaune ?
Alors pour cette fois-ci, 28, c'est un vin assez confidentiel, donc il fallait les boire. Voilà,
quel courage.
Transinter.fr à la page, on va déguster. Merci beaucoup aux équipes du web et en particulier à Anne Audigier. Vous aimiez ou pas ce quel cuvée vous avez versé, Dominique ? Dans le verre de Jennifer ?
C'était le Château Chalon.
Mmh. Alors ?
Moi, j'ai justement le côté oxydatif, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et très parfumé, très, très agréable. J'en reprendrai même un petit peu si c'est possible.
Grand accord avec vos noisettes de la poire de tout à l'heure.